Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir André Comte-Sponville. S'il est besoin de vous présenter, vous êtes philosophe, auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits dans le monde entier. Je vais en citer quelques-uns. Le traité du désespoir et de la béatitude, le petit traité des grandes vertus et un dictionnaire philosophique que vous avez publié au PUF pour ces trois ouvrages. Et ce soir, nous vous recevons pour cet ouvrage, L'opportunité de vivre, ultime étude, puisque c'est le sous-titre que vous avez donné à ce recueil. Un ouvrage qui vient clore le triptyque entamé en 94 avec Valeur et vérité, étude cynique, et prolongé en 2015 avec Du tragique au matérialisme et retour. Il s'agit d'un recueil de textes d'histoire de la philosophie pour l'essentiel des conférences que vous avez données. Et vous venez revisiter votre itinéraire intellectuel en dialoguant, en conversant, pour employer un terme qui est cher à Montaigne, avec des philosophes que vous avez choisis parce qu'ils ont été des maîtres avec lesquels vous pensez, et parfois au-delà d'eux-mêmes. Alors, en ayant choisi ce sous-titre, « Ultime étude », vous achevez quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Bien, bonsoir à tous. Oui, ultimes études, je termine mes études. Parce que je trouve que je n'ai plus l'âge de faire des études. Alors, il faut dire un mot sur ce mot d'études. Moi, j'aime bien les formes brèves. Quand on peut écrire un texte de 10 pages, il n'y a pas de raison d'en faire un livre. Et donc, j'écris beaucoup, beaucoup d'articles que j'ai fini par classer. Parce que pour leur donner une certaine pérennité, il faut forcément les rassembler dans un livre, malgré tout. Sinon, ils seront dispersés dans des revues, dans des journaux, personne ne pourrait les lire. Donc, j'ai pris l'habitude de rassembler mes différents articles en trois types de recueils. Des propos, des impromptus et des études. J'en ai fait regrouper sous le titre, que j'empruntais évidemment au philosophe Alain, sous le titre de « Propos », les articles les plus brefs, 2, 3, 4 feuillets, souvent publiés dans des magazines, des quotidiens, et portant le plus souvent sur l'actualité. Voilà. C'est ce que j'appelle les propos. Et puis il y avait des articles plus longs, 10 feuillets, 20 feuillets, et surtout plus littéraires, plus subjectifs, et volontiers mélancoliques, que j'appelais des impromptus. Parce que, d'abord, j'adore Schubert, et j'empruntais le mot d'impromptu à Schubert. Les impromptus de Schubert, c'est de la musique facile d'accès, au moins pour le public, mais pas très difficile à jouer, et légèrement mélancolique. Et puis, il y avait les troisièmes types d'articles, plus longs, 20 feuillets, 30 feuillets, 40 feuillets, des fois, mais surtout plus savants, avec beaucoup de références, beaucoup de notes en bas de page, que j'appelais, en prenant cette fois le titre à Chopin, que j'appelais des études. Les études de Chopin, c'est de la très belle musique, mais c'est quand même des exercices techniques. Voilà. Et donc, ces études, ce sont des articles un peu longs, un peu savants, beaucoup de références et beaucoup de notes en bas de page, et qui portent essentiellement sur l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire sur la pensée des autres. Par exemple, là, il y a un texte sur le suicide chez les stoïciens et les épicuriens, il y a deux textes sur Montaigne, un long texte sur Spinoza, un texte sur Alain, un texte sur Marcel Conche, etc. C'est des textes d'histoire de la philosophie. Et c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir fait le tour dans ces trois volumes d'études que vous évoquiez, ça fait 1000 pages dans ces trois volumes-là. Je trouve que c'est mes adieux à l'histoire de la philosophie. J'écrirai peut-être d'autres livres, mais assurément plus d'autres recueils d'études. Voilà. Je ferai peut-être d'autres livres. En vérité, je n'en sais rien. Voilà. Parce que pour répondre à une question, comme mes amis ont vu le sous-titre « Ultimes études », ils se sont dit, ça y est, soit il est gravement malade, soit il commence une dépression. Je leur dis non. Mais c'est vrai que pour la première fois depuis 50 ans, une confidence que j'ai fait à mes amis aussi. Pour la première fois depuis 50 ans, je n'ai aucun livre en cours ni en projet. Et c'est pas triste, c'est bien.
C'est bien.
Autrement dit, moi, j'ai le sentiment, j'aurai 73 ans dans deux semaines, ou dans six semaines, pardon, j'ai le sentiment d'avoir dit ce que j'avais à dire. Et là encore, quand je dis ça à mes amis, ils le sentent comme une mauvaise nouvelle. Mais non, c'est très bien. Si j'arrivais à 73 ans en ayant le sentiment que j'ai pas réussi à dire ce que j'avais à dire, alors là, ça serait un échec. On pourrait me plaindre, je pourrais m'inquiéter. Mais arriver à mon âge en te disant, ben voilà, en gros, j'ai dit ce que j'avais à dire. En plus, je pense que je l'ai plutôt bien dit, donc c'est une grande satisfaction. Et donc, est-ce que je ferai d'autres livres? Je n'en sais rien. Et c'est pas grave, c'est pas triste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'arriver à vivre sans écrire, parce que j'ai toujours rêvé que la vie puisse me suffire. Et les bons jours, je me rends compte que j'en suis capable. Les mauvais jours, c'est un peu plus difficile. Parce que quand on se lève le matin, qu'on a un livre en cours, bon, on sait pourquoi on se lève. Quand on se lève le matin, qu'on n'a pas de livre en cours, les bons jours, ça va, les mauvais jours, on se lève quand même, je vous rassure, mais les mauvais jours, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais voilà, moi, je trouve que... Donc, c'est bien mes ultimes études. Est-ce que c'est mon dernier livre ou pas? J'en sais rien. Je pense plutôt que non, mais en vérité, j'en sais rien. Mais surtout, c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi que d'arriver à la fin d'un parcours, de toute façon, à l'âge que j'ai, il est évident que l'essentiel de mon œuvre est derrière moi. Et là encore, c'est pas triste, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai publié une trentaine d'ouvrages. Je suis très content de les avoir publiés. Au fond, j'aime mieux les avoir derrière moi que devant moi.
Alors, avant de nous laisser, nous dire quelques mots de la première étude que vous consacrez à la question du suicide, je voudrais peut-être vous poser une question à partir d'un extrait de Castoriadis, hein, le philosophe Castoriadis, qui faisait à la fin des années 80 le diagnostic suivant: l'ultime vérité de la société occidentale contemporaine, c'est la fuite éperdue devant la mort, la tentative de recouvrir notre mortalité, qui se monnaie de mille façons, par la suppression du deuil, par les morticiens, par les tubages et les branchements interminables de l'acharnement thérapeutique, par la formation de psychologues spécialisés pour assister les mourants, par la relégation des vieux, etc. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que notre époque refuse de penser la mort, refuse de penser à la mort? Est-ce que nous en sommes toujours là?
Oui, je pense que c'est vrai, sauf que c'est pas seulement notre époque. Les gens ont toujours préféré faire semblant de ne pas mourir, quoi. Alors peut-être un peu moins les anciens dans l'Antiquité grecque ou latine, parce que là, quand même, on bourrait beaucoup. Donc il était plus difficile de ne pas y penser. C'est amusant, cette histoire. On mourrait beaucoup, hein, parce qu'en vérité... Je me souviens, une fois, j'animais un séminaire avec des médecins, comme je fais souvent, des médecins hospitaliers. Et il y avait un professeur de médecine dans le séminaire qui nous dit « Ce week-end, je corrigeais des copies de mes étudiants, donc des étudiants en médecine. » Et il nous dit « J'ai lu sur la copie d'un étudiant la phrase suivante « Autrefois, les gens mouraient souvent. » Il nous dit « J'ai écrit dans la marge, au stylo rouge, « Ils ne meurent pas moins aujourd'hui. » C'est intéressant. Parce qu'à la lettre, l'étudiant avait raison. C'est-à-dire, si on rapporte le nombre de décès dans une année donnée au nombre de vivants, vous avez un taux qu'on appelle le taux de mortalité, et il a considérablement baissé depuis plusieurs siècles. C'était bien sûr une très bonne nouvelle. Et donc, en un sens, l'étudiant avait raison. On meurt moins souvent qu'il y a deux siècles, a fortiori que dans l'Antiquité. Sauf que le taux de mortalité, c'est des statistiques. Ça vaut à l'échelle des grands nombres. Sauf que ce n'est pas les statistiques qui meurent. C'est vous, c'est moi, c'est toujours un individu. Or, le taux individuel de mortalité n'a pas bougé d'une décimale depuis 300 000 ans. Il est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire à 100%. Mais il n'en reste pas moins, c'est pour justifier ma formule apparemment bizarre, dans l'Antiquité, les gens mouraient beaucoup. Bah oui, le taux de mortalité était bien plus élevé, donc on croisait des cadavres, j'imagine, bien plus souvent que ça nous arrive à nous. Il n'en reste pas moins qu'au XVIe siècle, en tout cas, Montaigne constate, comme Castoriadis, que les gens préfèrent ne pas penser à la mort. Et Montaigne écrit dans les essais, « Ils vont, ils viennent, ils courent, ils sautent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. » ils font semblant de ne pas mourir. Sauf que Montaigne ajoute, oui, mais quand la mort les frappe, eux ou leurs proches, alors quel chagrin, quelle angoisse, quelle tristesse, quel désespoir. Il y faut pourvoir de meilleures heures, dit Montaigne. Il faut penser à la mort plus tôt. Donc c'était vrai du temps de Montaigne, c'est vrai encore aujourd'hui. Alors, c'est ce qui m'a frappé pendant le Covid, on ne va pas revenir sur cette douloureuse histoire. Enfin, moi, j'ai quand même vu un journaliste me dire, mot à mot, avec cette pandémie, on redécouvre que nous sommes mortels. Mais qui avait été assez bête pour l'oublier, si vous le dites. Tout d'un coup, les gens, il fallait penser à la mort, c'était l'enfer, la peur. Je crois que si on y avait pourvu de meilleures heures, si on avait pensé plus souvent que nous allons mourir, on aurait mieux vécu la pandémie. Il y aura peu cette panique exagérée pour une maladie dont le taux de létalité, il faut le rappeler, était inférieur à 1%. Voilà, donc oui, Castoriadis a raison, mais ce n'est pas seulement l'époque contemporaine. Je crois que c'est au fond dans l'être humain. En tout cas, c'est vrai depuis la fin du Moyen-Âge. Il se peut que la Renaissance, de ce point de vue, faut interroger un historien, ait fait une différence. Mais en tout cas, voilà. Montaigne constatait, comme Castoriadis, comme moi, que les gens oublient qu'ils vont mourir, font tout pour ne pas y penser. Et c'est dommage, parce que quand on pense davantage à la mort, et encore, j'ai envie de dire, et c'est pas triste, parce que quand on pense à la mort, on se rappelle qu'on est vivant. Hein. Vous avez vu, moi, bombé sur un mur en 68, un beau slogan, « Il y a une vie avant la mort ». Oui, c'est vrai, mais plus on pense à la mort, plus cette vie devient précieuse. Et c'est la formule d'André Gide que j'ai très souvent citée. André Gide, grand lecteur de Montaigne, écrit dans « Les nourritures terrestres », « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie ». C'est beau, ça, hein, y compris l'apparente maladresse de la répétition du pas assez, qui en vérité n'est qu'une beauté supplémentaire. Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Parce que si on pensait plus souvent à la mort, on vivrait plus intensément et donc on vivrait mieux. Parce que chaque instant se détacherait, comme dit là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Et donc il faut penser à la mort, pas pour s'enfoncer dans la dépression, mais au contraire pour aimer mieux la vie, pour profiter de chaque instant de la vie. Et donc, le fait que nos contemporains, très souvent, fassent tout pour ne jamais penser à la mort, eh bien, j'ai envie de leur dire, c'est dommage. Si vous dépensiez un peu plus, vous vivriez sans doute un peu mieux.
Alors, le premier texte de votre recueil porte sur la question du suicide. Vous l'avez intitulé « L'opportunité de mourir », épicurien et stoïcien face au suicide. Et vous revenez sur la manière dont justement ces écoles, ces deux écoles hellénistiques et romaines, ont pensé l'option du suicide comme un acte de liberté, lorsque l'individu décide et juge en conscience que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vous écrivez que continuer de vivre ou décider d'en finir, c'est une question d'opportunité plutôt que de principe, ce qui suppose qu'on est encore vivant.
Oui, c'est ce qui explique le titre du recueil, parce que « Ultimes études », c'est le sous-titre, mais le titre, c'est « L'opportunité de vivre ». Pourquoi ce titre? Parce que le premier article, il parle donc sur le suicide, chez les épicuriens et les stoïciens, je l'avais appelé « L'opportunité de mourir ». Et pour tout vous dire, quand j'ai constitué ce recueil, le premier titre qui m'est venu, c'était « L'opportunité de mourir et autres ultimes études ». Quand je dis ça à mon épouse, elle m'a dit « Mais attends, c'est une tristesse à pleurer ton histoire ». Et donc, je me suis dit « Elle a peut-être raison ». Et donc, je l'ai appelé « L'opportunité de vivre, ultimes études ». Quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle m'a dit « J'adore votre femme ». Évidemment, du point de vue de l'éditeur, l'opportunité de vivre, c'est un meilleur titre que l'opportunité de mourir. On pense que ça va être plus vendeur. On va revenir sur le suicide, mais les journalistes ont tendance, parce qu'il y a cet article sur le suicide, c'était encore le cas, je crois, j'étais à LCI, à m'interroger sur la fin de vie, sur le projet de loi en discussion sur l'euthanasie et le suicide assisté. Alors, je rappelle que je suis un farouche partisan d'une légalisation et de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais ce n'est pas ça la question dans ce livre. Et donc je voulais vous signaler, pour ceux que ça intéresse, que j'ai écrit en revanche un texte sur le suicide assisté et sur l'euthanasie que vous trouverez non pas dans un recueil d'études, mais dans un recueil d'impromptus, en l'occurrence mon dernier recueil d'impromptus, qui est paru il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle « La clé des chants et autres impromptus ». Voilà. La clé des chants, pourquoi la clé des chants? Parce que j'emprunte ce titre à Montaigne. Montaigne, qui pense que la plus volontaire mort, c'est la plus belle, comme il écrit dans les essais, écrit toujours dans les essais cette phrase à laquelle j'emprunte mon titre, « La clé des chants ». Montaigne écrit « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des chants ». La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller, y compris volontairement. Autrement dit, Montaigne pense comme moi, mais comme les épicuriens, comme les stoïciens, qu'on a le droit de se suicider si on le veut. Je reviens maintenant au texte sur les épicuriens et les stoïciens. C'était une commande. On m'avait demandé d'intervenir à un colloque en Suisse sur le suicide. Et les organisateurs m'avaient demandé de parler du suicide chez les stoïciens. J'avais demandé l'autorisation de parler aussi des épicuriens, parce que les deux m'intéressent. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les épicuriens et les stoïciens, qui sont deux des trois grandes écoles hellénistiques, ce qu'on appelle la période hellénistique, c'est la Grèce un peu tardive, à partir de la mort d'Alexandre. Il y a trois grandes écoles, il y a les sceptiques, Pyrrhon, les stoïciens et les épicuriens. Laissons les sceptiques de côté, épicuriens et stoïciens ne sont d'accord sur rien. Ces deux écoles totalement opposées, qui en plus ils se détestent, sont d'accord sur rien, sauf sur un point, le suicide. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur le suicide? Ils nous disent que on a bien sûr le droit de se suicider quand on est trop malheureux, gravement malade, trop vieux, etc. C'est pas un problème pour les anciens. Vous savez, avant les grands monothéismes, personne ne n'a jamais contesté qu'on ait le droit de se suicider. Simplement, ce qu'ils montrent bien, c'est que continuer à vivre ou décider d'en finir, c'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Autrement dit, il s'agit pas de savoir, un peu à la façon de Camus au début du mythe de Sisyphe. C'est bien Camus, dans ce beau livre par ailleurs, écrit: il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est la question du suicide. Décider que la vie vaut ou pas la peine d'être vécue, c'est ça la seule vraie question, explique Camus. Alors, je pense que ce n'est pas du tout la seule question philosophique. Bien sûr, là, il a tort, il y en a des tas d'autres et même plus intéressantes. Mais c'est une vraie question philosophique. Sauf que l'erreur de Camus, c'est de croire qu'on va répondre à la question « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» en soi, in abstracto, pour tous les cas. Mais non, ce que répondent les stoïciens et les épicuriens, c'est « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Mais ça dépend pour qui, ça dépend à quel moment, ça dépend des circonstances. Voilà. Selon que tu es en bonne santé ou que tu es malade, la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Et donc, voilà ce que je montre dans cet article, mais encore une fois, c'est un article d'histoire de la philosophie, c'est que les épicuriens et les stoïciens, qui ne sont d'accord sur rien, sauf pour dire qu'on a le droit de se suicider, pensent, et à mon avis, ils ont raison, que la question de savoir si on doit continuer à vivre ou décider d'en finir, ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Et que donc, l'opportunité de mourir, le titre du premier article, et l'opportunité de vivre, le titre du recueil, mais les deux vont ensemble, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est toujours la même question, est-ce que la vie, en ce moment, vu les circonstances, est-ce qu'elle vaut ou pas la peine d'être vécue? Sauf que, bien sûr, l'opportunité de vivre est bien plus importante que l'opportunité de mourir. Parce que mourir, on ne meurt jamais qu'une fois, alors que la vie, ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis, le droit de mourir, moi, je pense qu'il y a un droit de mourir, c'est pour ça qu'il faut légaliser l'assistance au suicide. Mais c'est assez facile d'assurer le droit de mourir. Il suffit d'une loi, ça ne coûte rien en plus. Assurer le droit de vivre, c'est beaucoup plus difficile. Je rappelle qu'il y a 9 millions d'êtres humains qui meurent de faim chaque année, 9 millions, dont 3 millions d'enfants. Leur droit de vivre, il est quand même très loin d'être garanti. Là, c'est compliqué. Et donc, la grande chose, ce n'est pas le droit de mourir, c'est le droit de vivre. Et c'est pour ça aussi, partisan que je sois d'une légalisation de l'euthanasie, je suis un peu agacé des fois quand je vois des militants de l'ADMD, par exemple, l'association pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, je suis membre de leur comité de parrainage, mais ils ont tendance à faire de la légalisation de l'euthanasie la liberté suprême. Mais non, la liberté suprême, c'est la liberté de vivre, bien sûr. La mort éventuellement volontaire, c'est pas la liberté suprême, c'est la liberté ultime. Ben oui, par définition, c'est la dernière. Mais l'opportunité de vivre, c'est bien plus important que l'opportunité de mourir. Et d'ailleurs, ce mot « opportun » m'intéresse parce que, quand vous regardez dans le Littré, le grand dictionnaire de Littré, à l'article « opportun », Littré écrit « opportun, deux points, ce qui est à propos ». Or, ceux qui ont lu Montaigne ici se souviennent sans doute que Montaigne écrit dans les Essais « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos ». Autrement dit, en fonction des circonstances, savoir s'adapter aux événements, aux situations changeantes. On n'est pas obligé de penser toujours la même chose dans toutes les situations, notamment la question « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Ben évidemment, ça dépend notamment de la santé. Et donc, moi, je suis très content d'être vivant. Je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais si, en sortant de cette salle, je suis atteint d'un AVC gravissime et que je me retrouve, par exemple, paralysé des quatre membres, si je souhaite continuer à vivre, je souhaite que les médecins m'y aident et que notre société m'en donne les moyens. Mais si je préfère mourir, ce qui me paraît, entre guillemets, le plus vraisemblable dans la situation que je viens d'évoquer, je veux que mon médecin ait le droit de m'y aider. Voilà, donc c'est là où la lecture des anciens est intéressante. Enfin, l'article ne porte pas sur l'euthanasie. Je vous renvoie à mon article « La clé des champs » dans le recueil qui s'appelle « La clé des champs ». Mais voilà, les stoïciens et les épicuriens nous éclairent sur le fait que on a le droit de mourir, que le suicide fait partie des droits de l'homme, pour le dire dans nos façons modernes de nous exprimer. Mais ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Et je dis ça parce que là encore, s'agissant du débat sur la fin de vie, j'en ai fait je ne sais combien, il y a toujours un adversaire de la légalisation de l'euthanasie qui vous dit « Vous avez choisi la mort, moi je choisis la vie ». Mais non, c'est idiot. Personne choisit la mort. Tout le monde choisit la vie. Tout le monde préfère la vie, mais tant qu'elle est à peu près supportable. Mais s'il y a des moments où la vie devient atrocement douloureuse, atrocement handicapée, si vous souhaitez continuer à vivre, mais ce n'est pas moi qui vous le reprocherai, mais si vous souhaitez en finir, je ne vois pas pourquoi on interdit à votre médecin de vous y aider. J'ajoute d'ailleurs, et je termine là-dessus, qu'il y a deux films à voir. Le premier, c'était hier sur France 2, Le choix de dette, on voit une femme québécoise formidable de joie de vivre, qui décide d'en finir, qui se fait euthanasier, qui meurt entourée de ses enfants, et dans la paix, dans la sérénité, dans une forme de bonheur, finalement. Et l'autre film, c'est La chambre d'à côté d'Almodovar. On voit pareil, une femme qui décide volontairement de mourir, dans les deux cas, parce que les deux ont un cancer en phase terminale, sauf que là, c'est pas au Québec. C'est le cas de dette où l'euthanasie est autorisée. C'est aux États-Unis où l'euthanasie est interdite. Et on voit que ça change tout, évidemment. Et que si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir être maître aussi de ma mort. Encore faut-il que la loi m'y autorise et que je ne sois pas, moi ou ceux qui m'auront aidé à mourir, passible de poursuites pénales. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais c'était pour faire le tour de cette intéressante question.
Alors, vous consacrez deux articles à Montaigne, vous en avez dit quelques mots. D'abord, à sa conception de la vie et du temps, hein, ce vivre à propos, mais aussi à la relation de Montaigne à Épicure et à Lucrèce sur la question du plaisir. Alors, vous dites que vous écrivez que Montaigne reste fidèle à l'hédonisme plus qu'à l'épicurisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors c'est... Là encore, c'est un travail de commande pour une revue savante. Montaigne adore les philosophes de l'Antiquité, hein, qu'il lit en latin essentiellement, qu'il ne lit pas le grec, mais la plupart des auteurs grecs sont traduits en latin à l'époque, et parfois traduits en français. Et moi, j'avais gardé en tête les trois grandes écoles hellénistiques, donc les sceptiques, les stoïciens et les épicuriens. J'avais gardé en tête un schéma qu'on trouve chez les commentateurs au début du XXe siècle, comme quoi Montaigne est d'abord stoïcien, et puis arrive ce qu'on appelle la crise sceptique, donc il devient sceptique, et finalement, se rapprochant de lui-même, qu'il a un côté jouisseur, hein, Montaigne, ce que son ami Laboétie lui reproche. Hein. Montaigne aime manger goulûment et faire l'amour, si j'ose dire, jusqu'à plus soif. Donc se rapprochant de lui-même, il devient, c'est ce que j'avais gardé en tête, de plus en plus épicurien. Voilà. Et donc là, la tradition disait il y a trois phases, un Montaigne stoïcien, puis un Montaigne sceptique, enfin un Montaigne épicurien qui devient vraiment Montaigne. Et en fait, quand on lit tous les textes, grâce aux index, quand on lit à la file tous les textes où Montaigne parle d'Épicure, ben on voit que c'est plus compliqué que ça. Alors bien sûr, Montaigne n'a jamais été vraiment stoïcien, Montaigne n'a pas la mentalité d'un disciple. Il n'a jamais été absolument sceptique non plus, ni jamais absolument épicurien, mais vis-à-vis des stoïciens, il reste toujours critique, parce qu'il ne croit pas en leur sagesse. Pour Montaigne, la sagesse des stoïciens est une sagesse exagérée. Il écrit, pensant sans doute à Sénèque, le stoïcien, « Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme. Qu'est-il plus caduc et plus de néant ?» Autrement dit, le sage stoïcien, toujours impassible. Ta maison brûle, c'est pas grave, si t'as la sagesse, c'est pas un problème. Ton fils vient de mourir, c'est pas grave si t'as la sagesse. C'est pas un problème. Montaigne, il trouve que c'est quand même un problème si sa maison brûle et si son fils meurt. Donc, il ne croit pas à la sagesse indestructible des stoïciens. Il ne croit pas non plus à la sagesse tout aussi prétendument indestructible d'Épicure. Et pour lui, la sagesse d'Épicure est aussi exagérée que celle des stoïciens. Et donc, il renvoie un peu dos à dos comme des temps des partisans d'une sagesse outrée qui prétend dépasser l'homme, comme dit Montaigne, vouloir dépasser l'homme, pour Montaigne, c'est un contresens et sur l'humanité et sur la philosophie. Et puis, il y a la question du plaisir. Parce que, comme vous le savez, Épicure est un hédoniste. C'est quoi un hédoniste? C'est quelqu'un qui fait du plaisir le souverain bien. Et Montaigne, il sera assez d'accord. Il va de soi que le plaisir vaut mieux que la souffrance. Et d'ailleurs, il l'écrit, d'ailleurs. Oui, ce qui est bon dans la vie, c'est la volupté. Il prend ce mot de volupté exprès pour agacer un peu les stoïciens, les curés, tout ça. C'est un mot qui leur déplaît. Raison de plus pour le prendre. Sauf que Montaigne comprend vite que le principe de plaisir, comme dit Freud, ne suffit pas à fonder une morale. Autrement dit, une action peut vous faire plaisir. Elle peut même faire plaisir à tout le monde et être moralement condamnable. Deux exemples. Vous inventez un haut fait. Vous avez escaladé l'Annapurna d'une seule main. Vous ne faites de tort à personne. Même vous faites plaisir aux gens qui vous écoutent. Ils sont éberlués d'admiration. Ils passent une soirée formidable. Vous faites plaisir, vous leur faites plaisir. Et pourtant, c'est parfaitement méprisable. C'est moralement condamnable. Parce que c'est un mensonge. C'est aussi bête que ça. Un mensonge agréable pour tout le monde reste moralement condamnable. Alors qu'une sincérité désagréable pour tout le monde reste, sauf exception, moralement estimable. Deuxième exemple que j'emprunte à Dortier, dont je cite la référence en note, vous trouverez ça. L'homme de 50 ans qui trompe son épouse à peu près du même âge avec une jeune femme de 25 ans, il augmente son plaisir. Dans le meilleur des cas, il augmente le plaisir de la jeune femme. Oui, dans le meilleur des cas, je sais. Et il ne fait aucune souffrance à son épouse tant qu'elle n'est pas au courant. Et donc, il y a une augmentation globale de plaisir. Son plaisir à lui, celui de la jeune femme, et comme l'épouse, c'est neutre, plus de plaisir. Oui, mais c'est un menteur. J'ai rien contre le libertinage, si tout le monde te dit la vérité, mais tromper sa femme ou son mari sans le dire, c'est une faute morale, en tout cas pour Montaigne et pour moi aussi, d'ailleurs. Et donc, l'hédonisme ne tient pas lieu de morale. Et c'est pour ça que la formule de le nom de l'âme échappe de cette moraliste du 18e siècle, que Michel Onfray aime beaucoup citer, il a raison. Champfort, voilà, la formule de Champfort que Michel Onfray aime beaucoup citer, il a raison parce qu'elle est belle, et puis Champfort est un grand écrivain. Champfort écrit « Jouir et faire jouir, sans faire de mal ni à soi ni à autrui, voilà, je crois, toute la morale. » Eh bien non. Non, parce que les exemples que j'ai pris, vous vous jouissez, vous faites jouir, vous faites de mal à personne, mais moralement, vous ne pouvez pas trouver que c'est estimable. Oui. Et donc voilà, Montaigne qui adore le plaisir, comme Épicure, et même en vérité beaucoup plus qu'Épicure, parce qu'il est bien plus jouisseur qu'Épicure ne l'a jamais été, voit bien que le plaisir ne suffit pas à faire une morale, et qu'on a besoin aussi d'autres choses. Voilà, et que donc... le plaisir, c'est formidable, mais que ça ne tient pas lieu de morale. Et sur ce point, bien sûr, je suis d'accord avec Montaigne.
Alors, vous consacrez un autre texte de ce recueil au tragique, à la notion de tragique, selon Marcel Conche, un de vos maîtres, sinon votre maître. Et vous écrivez que... de Marcel Conche, dont vous avez été l'élève, hein, il vous a réconcilié avec le tragique et peut-être aussi avec la sagesse. Et en même temps, vous cherchez à montrer dans ce texte que le tragique ne peut pas se réduire à la mortalité. Vous avez un exemple, hein, celui du premier baiser, de cette première fois. Vous dites qu'elle est irrattrapable, non pas parce que nous allons mourir, mais parce que plus qu'un autre, plus aucune autre fois n'aura le même goût.
Oui, alors le tragique, c'est quoi ? La notion pour nous, les modernes, elle est fortement marquée par Nietzsche et plus encore par les commentateurs de Nietzsche français, spécialement qui sont Gilles Deleuze et Clément Rosset, hein, qui expliquent, citant Nietzsche, que le tragique, c'est l'acceptation du réel dans son entier, joie et tristesse, plaisir et souffrance, y compris l'acceptation du pire. Sauf que c'est une acceptation joyeuse. Bon, là, je cite dans le texte des formules et de Deleuze et de Clément Rosset, qui vont jusqu'à dire en gros que la joie est le sentiment tragique par excellence. Ce n'est pas le sens ordinaire du mot. Et moi, je me méfie toujours quand les philosophes commencent à tordre la langue. Moi, je crois qu'Aristote a raison, comme presque toujours d'ailleurs. Le tragique, c'est quoi? C'est ce qui inspire la pitié, la compassion. Et c'est pour ça qu'il y a du tragique dans la condition humaine, parce qu'il y a des tas de situations pitoyables. Il y a la souffrance, il y a la mort, et puis il y a le temps. C'est que nous vivons dans le temps. Et ce que montre Marcel Conche, je commente longuement ses textes, c'est que le tragique, c'est d'abord essentiellement la prise en compte de notre finitude, de notre mortalité, de notre temporalité. Le temps comme pouvoir de destruction, puisque tout ce que nous vivons disparaîtra avec le temps. Et il faut comprendre ce qu'il y a là de tragique. Au fond, disons-le simplement, mourir, on préférerait pas. Oui, mais on meurt. Cette part de finitude, de mortalité, cette part d'échec dans la vie. J'ai été interrogé récemment par un journaliste qui me demande qu'est-ce qu'une vie réussie. Je lui dis, c'est pas la bonne question. C'est bien que mon ami Luc Ferry en a fait un livre, mais non, c'est pas la bonne question. D'abord, moi, je pense, comme Jean-Paul Sartre, que toute vie est ratée par définition. D'abord parce qu'on meurt. Vous savez, vous connaissez la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Mais les biographies aussi, parce qu'on meurt. Oui. Et donc Sartre écrit quelque part, l'histoire de toute vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Et c'est vrai, évidemment. Alors, il y a des échecs plus ou moins complets, des vies apparemment plus réussies qu'une autre. Alors, pour répondre aux journalistes, je prenais deux exemples de vies quand même, parce que qui disait ça? Je crois que c'est Vigny, me semble-t-il, il faudrait vérifier, qui disait que une vie réussie, c'est un rêve d'adolescent réussi à l'âge mûr. Il y a deux exemples que je trouve bouleversants. Le premier, c'est le général de Gaulle, à 14 ans, qui écrit un texte de fiction, à 14 ans. Hein. Et dans ce texte de fiction écrit par le jeune Charles de Gaulle, il y a la phrase exacte, alors le général de Gaulle sauve la France. C'est inouï, ça. Et l'autre exemple qui me touche encore plus, parce que j'ai plus d'admiration encore et de sympathie et d'affection et de tendresse pour Victor Hugo que pour De Gaulle, pour qui j'ai du respect, mais à 16 ans, ou à 15 ans, je ne sais plus, Hugo écrit sur ses notes intimes « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et il devient Victor Hugo. C'est-à-dire beaucoup mieux que Chateaubriand. Chateaubriand était le plus grand écrivain de sa génération. Le plus grand écrivain français de sa génération. Mais Victor Hugo devient le plus grand écrivain français de tous les temps. Donc ça, on peut dire, c'est des vies spectaculairement réussies. Sauf que, quand le général de Gaulle est mort, est-ce qu'il avait le sentiment d'avoir réussi sa vie? Moi, j'en suis pas convaincu. D'abord, est-ce qu'il mourait? Et puis, il avait été battu au dernier référendum. Et de même, pour Victor Hugo, quand il est mort, est-ce qu'il avait le sentiment d'avoir réussi sa vie? J'en sais rien. Parce que ce que j'appelle le tragique, c'est plutôt l'acceptation que toute vie est une part d'échec. Et ce que je disais aux journalistes qui m'interrogeaient, vous imaginez le Christ sur la croix, se dire, quand même, j'ai réussi ma vie. Vous savez que c'est un athée qui vous parle, mais moi, je suis bouleversé par la mort du Christ sur la croix, ce que j'appelle la vérité du calvaire. C'est pas ça qu'il dit, les évangiles, il cite ses derniers mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est du tragique. Ça, c'est du tragique. Voilà, et donc prendre en compte la mort, la finitude, la solitude, l'échec, y compris l'échec de la philosophie. Parce que évidemment, la philosophie échoue, on en reparlera à propos de Spinoza, mais pour en tirer malgré tout une envie de vivre. Par exemple, la philosophie échoue, mais ce n'est pas une raison pour ne pas philosopher. C'est plutôt une raison pour continuer à philosopher, puisqu'on n'a jamais tout à fait réussi. Et puis surtout, je vais vous dire, ce que j'aime dans la philosophie, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas la réussite, c'est la philosophie. Et donc, qu'elle échoue, oui, ce n'est pas une raison pour cesser d'en faire. Voilà, et c'est ça que j'appelle le tragique, et c'est là où, contre cette espèce d'hystérisation prétendument joyeuse du tragique chez Clément Rosset et Gilles Deleuze, espèce de tragique allègre, moi j'aime mieux le tragique plus lucide, plus grave, plus tempéré de Marcel Camps. Il reste qu'il faut essayer de sortir de ça un certain bonheur. Et alors, c'est ce que moi j'ai appelé, dans d'autres livres, mais ça apparaît aussi ici, c'est ce que j'appelais le gai désespoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Toujours pareil, la finitude, la mort, la solitude, l'échec, etc. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas aimer la vie. Et pour moi, ce qui résume cet esprit du gai désespoir, enfin, il y a mille choses qui peuvent le résumer, mais j'en ai trouvé un résumé très récemment, il y a quelques mois. Donc, en gros, 50 ans après mes premiers livres, c'est une formule d'Alphonse Allais, vous savez, l'humoriste du fin 19e, tout début du 20e siècle, un peu oublié aujourd'hui, mais qui est un humoriste important de l'époque, qui écrit quelque part « Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. » J'adore votre rire. Et à chaque fois, depuis que j'ai fait cette formule, je la cite pratiquement à chaque conférence, et à chaque fois, c'est pareil, les gens rient. Bien, je vous dis, voilà, ce que j'appelle le gai désespoir, c'est exactement ça. C'est ce rire-là. C'est pas l'allégresse hystérique de nos petits Nietzscheens, non, c'est quand on voit la vérité en face, quand bien même elle est plutôt sombre, on va tous crever. Bah oui, mais ça donne envie de vivre. Ça donne envie de vivre. Et puis ça relativise nos petits soucis, nos petites angoisses, nos petites prétentions, nos petites vanités. Voilà, c'est ça, ce tragique-là. Donc il faut prendre acte de ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine, et c'est ça qu'au fond, moi, j'appelle le tragique, mais non pas pour en faire des raisons de tristesse, mais au contraire, pour aimer mieux la vie telle qu'elle est. Parce que très souvent, les gens reprochent à la vie de ne pas correspondre à leurs espérances. Vous savez, j'en parlais à propos de... Dans le livre précédent, là encore, la clé des champs, à propos du suicide de ma mère, parce que ma mère s'est suicidée. J'avais 34 ans, donc j'étais évidemment adulte, mais quand mon frère m'a appris le suicide de notre mère, je me suis souvenu d'une formule que m'avait écrit un psychanalyste après la parution de mon premier livre, Le Mythe d'Ica. où je critiquais justement les espoirs illusoires qu'on se fait sur la vie, il avait, ce psychanalyste m'écrivait, vous avez raison, parce qu'en tant que clinicien, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Ça m'avait frappé, ça, je connais encore la formule par cœur, et quand j'ai appris le suicide de ma mère, je me suis dit, ben voilà, maman s'est tuée par déception. Et s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Si on a appris quelque chose de l'existence, c'est ça. La vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en était fait, quand bien même ces espoirs se réalisent. Parce qu'on découvre évidemment que la satisfaction de nos espoirs ne suffit pas à nous procurer le bonheur qu'on en attendait. Quand on prépare la grègue, on se dit « qu'est-ce que je serais heureux si j'étais reçu ?» On est reçu, pour elle comme pour moi, mais on n'est pas heureux pour autant. La grègue, ça me fait le bonheur de personne, en un sens, heureusement, vous voyez, mais voilà. Donc la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en était fait, sauf que l'erreur de ma mère et de beaucoup de gens, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui t'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. C'est ça aussi le sens du tragique, là, y compris au sens nietzschien du terme. Hein. Moi, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs qui t'en étaient faits, ça ne veut pas dire que c'est la vie qui a tort, ça veut dire que ce sont nos espoirs, nos espérances qui, dès le début, sont vains, illusoires, mensongers. Et donc, comme je dis souvent, il s'agit d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, puisque comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Il s'agit d'espérer un peu moins, mais surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Et donc, plutôt que d'espérer vivre, comme disaient les stoïciens, entreprenons de vivre en effet. Optons résolument pour l'opportunité de vivre.
Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous consacrez un texte à votre relation à Spinoza. Vous affirmez que vous avez été spinoziste, justement, d'abord grâce à Althusser, un autre de vos maîtres, puis au-delà d'Althusser dont vous êtes éloigné. Et vous avez été convaincu, vous dites que vous pouviez trouver dans cette éthique de la libération une sagesse pour notre temps, mais que précisément quand il s'agit de penser la mort, à la mort, vous avez choisi Montaigne contre ou plutôt que Spinoza.
Oui, une fois, il y a des années de ça, un autre journaliste, je lui expliquais que c'est joué dans ma tête un grand combat entre Pascal, qui était mon premier maître quand j'avais 16-17 ans et que je vénère toujours, et Spinoza. Donc Pascal, le grand maître de l'angoisse, du tragique existentiel, et puis Spinoza, le grand maître de la joie. Donc, je disais, voilà, dans ma tête, pendant des années, voire des décennies, il y a eu ce grand duel entre Pascal et Spinoza, et le journaliste me demande qui a gagné. J'ai répondu Montaigne. Montaigne qui donne tort aux deux, qui donne tort à Pascal en expliquant quand même on n'est pas malheureux à ce point, et qui donne tort à Spinoza parce que quand même on n'est pas non plus heureux à ce point, faut arrêter de faire semblant. Donc oui, j'aime beaucoup ça chez Montaigne. Mais un mot, c'est l'article sur Spinoza, c'est le plus long article du recueil, je crois qu'il y a 40 ou 45 pages. Je suis très contente d'avoir écrit parce que Spinoza est sans doute le philosophe que j'ai le plus souvent cité, celui sur lequel j'ai le plus travaillé, dont je me suis le plus réclamé, ou autant que d'Épicure. Alors, je n'ai jamais été spinoziste à la lettre, pour une raison simple, que j'explique en détail dans cet article, c'est que je suis matérialiste et Spinoza ne l'est pas. Je suis matérialiste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que je pense que tout ce qui existe est matière ou produit de la matière. Et donc, être matérialiste, en ce sens, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel, et que spécialement ce qui pense en nous, ce n'est pas une âme immatérielle, c'est le cerveau, qui est évidemment un organe aussi matériel que tous les autres, plus complexe, mais aussi matériel que tous les autres. Or, cette idée que c'est le cerveau qui pense, qui pour moi est la pierre de touche du matérialisme, elle est impensable dans le spinozisme, puisque Spinoza, lui, distingue deux attributs, un attribut étendu, qui correspond à la matière, au sens où je prenais le mot, et un attribut pensé, sans aucun rapport de causalité entre les deux. Donc, à la lettre, Spinoza n'est jamais matérialiste, et donc, comme moi, je suis matérialiste, j'ai toujours dit que je n'étais pas en toute rigueur spinoziste. Mais c'est vrai que je partage avec Spinoza le naturalisme, l'idée que la nature est le tout du réel, le rationalisme, et Spinoza est sans doute le philosophe le plus rationaliste de tous les temps, et ce que j'appelle le relativisme pratique, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de valeur absolue contre Platon et le platonisme, et que toute valeur suppose un certain désir. Autrement dit, que la justice ne vaut que pour ceux qui désirent la justice. Et c'est une raison de plus pour se battre pour elle. Jolie formule du philosophe Alain, la justice n'existe pas. C'est pourquoi il faut la faire. Comme dit, la justice n'est pas une valeur éternelle qui existerait dans le ciel des idées. Non, ça dépend de nous, mais encore faut-il avoir en soi un désir de justice. Donc ça, c'était des points très importants qui ont fait que très souvent, je me suis appuyé sur Spinoza. Et si je suis moins spinoziste aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est le dogmatisme de Spinoza. Il prétend écrire son livre « Morée l'éthique », donc le grand chef-d'œuvre de Spinoza, qui est un chef-d'œuvre absolu par ailleurs. Il prétend l'écrire « more geometrico », comme il dit en latin, c'est-à-dire « à la façon des géomètres ». Si vous feuilletez l'éthique, vous verrez, il y a des axiomes, des définitions, des propositions, des démonstrations. Et il est certain de la vérité de ces démonstrations, parce qu'il croit avoir démontré la chose, au point qu'il dit « je ne sais pas si j'ai la meilleure philosophie, mais je sais que j'ai la vraie philosophie ». Mon idée, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de démonstration philosophique. C'est une conférence que je faisais devant l'association des amis de Spinoza, dans laquelle j'ai beaucoup d'amis très chers, mais qui sont quand même un peu des fanatiques de Spinoza, hein, enfin des fanatiques. Ils l'adorent tellement que des fois, on a envie de les secouer un petit peu. Et je leur dis, vous connaissez la boutade qu'on racontait quand on était enfant sur Beethoven. Beethoven, il était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. Et je leur disais, Spinoza, c'est pareil. Spinoza, il était tellement dogmatique que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la géométrie. Sauf qu'en géométrie, il y a de vraies preuves, de vraies démonstrations, en philosophie, non. Et donc, je ne peux plus souscrire au dogmatisme, au sens technique du terme, de Spinoza, c'est la prétention qu'il a de tenir des vérités certaines parce que démontrées. Je ne partage pas non plus, mais je ne vais pas entendre l'état à sa conception de l'idée vrai, justement parce que je pense que c'est le cerveau qui pense, y compris une idée vraie. C'est aussi le cerveau qui pense les idées fausses. Hein. Il y a un article là-dessus, ce que j'appelle la philosophie du cerveau. C'est pour ça que la neurobiologie ne tient pas lieu de philosophie ni de logique. Parce que c'est souvent posé la question aux neurobiologistes, quelle différence neurobiologique y a-t-il entre une idée vraie et une idée fausse? Tous m'ont répondu, aucune différence. Or, si la neurobiologie est vraie, il faut bien qu'il y ait une différence entre une idée vraie et une idée fausse. Et donc, la neurobiologie ne peut pas se fonder sur elle-même parce qu'elle a besoin qu'il y ait une différence entre une idée vraie et une idée fausse, différence dont, en tant que neurobiologiste, elle est incapable de rendre compte. En tout cas, pour l'instant, on verra dans quelques décennies, mais pour l'instant, c'est le cas. Et donc, on ne peut pas faire de ce que j'appelle le neurobiologisme, ce qui est une idéologie et pas une science. La neurobiologie, c'est une science. Le neurobiologiste est une idéologie. On ne peut pas faire de neurobiologisme la solution de tous nos problèmes. Mais enfin et surtout, ce que je ne peux pas partager, c'est la conception de la sagesse que fait Spinoza. De même que celle d'Épicure, et peut-être on va terminer par là, parce que je vois que l'heure tourne et on peut vous laisser un peu de temps de parole. Moi, j'ai commencé, mes deux premiers maîtres, c'était Épicure et Spinoza. Je continue de les admirer, évidemment, et de les aimer, mais à la fin de la lettre à Ménécée, petit texte sublime, une petite dizaine de pages que tout le monde peut lire, hein, donc d'Épicure, à la différence de l'éthique de Spinoza, qu'en gros, personne ne peut lire, sauf ceux qui ont fait des études de philosophie. À la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit à son disciple Ménécée, « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Moi, j'ai lu ça, j'avais 18 ans, je trouvais ça formidable. Ça m'est même un peu monté à la tête. Putain, vivre comme un dieu parmi les hommes, n'être jamais troublé, je prends. Mais j'avais 18 ans. Bon, si à 72 ans, bientôt 73, je vous disais, écoutez, je ne suis jamais troublé. Je vis comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels, vous diriez qu'on se convie à péter les plombs. Vous auriez raison. Autrement dit, alors, la sagesse d'Épicure, Épicure en grec l'appelle ataraxia, ataraxie en français, le A est privatif. Ataraxia, ça veut dire littéralement l'absence de trouble. C'est ça, jamais troublé, ataraxia. Bien, j'ai trouvé la récusation de cette ataraxie épicurienne dans une phrase de Montaigne, dont j'ai fait le titre d'un autre de mes livres. Montaigne écrit joliment « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. » Tendre au sens de fragile, comme on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre. Hein. « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. » Autrement dit, mon cher Épicure pourrait dire Montaigne, qui adore Épicure. Mais mon cher Épicure, ton ataraxie, c'est formidable, c'est joli, ça fait rêver les jeunes gens, mais quant au fond, c'est du pipeau. Ça ne marche pas, ça échoue. Hein. C'est ça le tragique. Hein. Pourquoi ça échoue? Mais parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et donc la vie et Montaigne m'ont aidé à comprendre que l'ataraxie, en gros, ça échoue, c'est du pipeau, et on retrouve le tragique. Parce que si l'ataraxie était possible, on aurait évacué le tragique. Mais on ne peut pas, précisément, parce que la philosophie aussi échoue. Et Spinoza, de même, à la fin de l'éthique, écrit en substance la même chose, il explique que le sage, l'homme libre, comme il dit, n'est jamais troublé, vit dans un perpétuel contentement, au point que la partie de lui qui mourra est comme rien par rapport à la partie de lui qui est éternelle et donc qui ne mourra pas. Sauf que, là encore, ça ne marche pas, parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, Épicure et Spinoza se sont fait de la sagesse une telle conception absolue que chacun, en tout cas moi, je sais bien que je ne serai jamais un sage. Et je l'ai compris assez vite, heureusement. Et Montaigne m'a aidé, si j'ose dire, à faire mon deuil de cette sagesse prétendument absolue d'un Épicure ou d'un Spinoza. Parce que comprendre que cette sagesse-là, elle est impossible, ce n'est pas une raison pour renoncer à toute sagesse. C'est plutôt une raison pour penser ce que j'appelle, moi, une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être ou prétendaient l'être. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse, au moins, de l'accepter. Et cette sagesse-là, finalement, Montaigne la résume en une phrase, à l'extrême fin des essais, « Pour moi donc, j'aime la vie. » J'aime la vie. C'est pas « j'aime le bonheur », c'est pas « j'aime la sagesse ». Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer la sagesse. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse, selon Montaigne et selon moi, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Et quand Montaigne écrit notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos, tandis de cultiver l'opportunité de vivre. Encore une fois, Littré dit « opportun ce qui est à propos ». Vivre à propos, c'est-à-dire cultiver ce que j'appelle moi l'opportunité de vivre, c'est comprendre qu'il n'y a pas de sagesse absolue, qu'il n'y a pas de bonheur absolu, mais qu'on peut être heureux de vivre à condition qu'on aime la vie. Mais aimer la vie, c'est l'aimer telle qu'elle est, donc accepter sa part de souffrance, accepter sa finitude, accepter la mort, accepter le tragique, accepter ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine. Et là encore, c'est pas triste, parce qu'une fois qu'on accepte ça, ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. On peut aimer la vie sans avoir besoin de se faire des illusions sur elle.
Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.